voici le journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canus,
Canu Info.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, de quoi on va parler ?
De réforme des retraites déjà, bien sûr.
Ensuite, on va parler des nouvelles méthodes du préfet de police de Paris.
Ensuite, on aura la chronique de Laurent Delabouze.
Puis la Turquie souhaite lancer une procédure d'interdiction du HDP, le parti de gauche.
On va parler aussi de l'expulsion de la ZAD de Lutzerat.
Et on aura le camion info. Et on
le camion info, c'est
j'ai
ça
dit
que
quoi
tu voulais dire. T'as dit ouais. Le camion info. Ah, bien bah, sûr, oui. On aura le camion info, on est dedans, on est plein dedans. Et on terminera par quelques brèves de frontières.
Et on va commencer par quelques brèves. Et c'est moi qui commence.
Allez, bah vas-y, commence.
Allez, et ben c'est une victoire pour les salariés de grands frais de Pierre Bénitrieux, La Pape et Bron, qui ont obtenu que ces trois sociétés forment bel et bien une unité économique et sociale. Et ça, c'est le tribunal administratif qui l'a dit en d'autres termes, je vais y arriver. Même si ce sont plusieurs entités, elles possèdent malgré tout de forts liens entre elles, à commencer par avoir le même gérant, ce qui a pour conséquence de faire dépasser le seuil de 11 salariés et donc l'entreprise a plus de devoirs en termes d'implantation syndicale. C'était notamment le but pour elle de diviser en trois ce genre de trucs quoi. Dorénavant, des élections professionnelles devront avoir lieu afin de constituer un comité économique et social, soit un CSE, dans les trois établissements, avec à la clé l'élection de délégués du personnel qui aura pour but de s'assurer du respect du droit du travail dans l'entreprise et demander des comptes aux dirigeants de l'entreprise. Le syndicat Sud Services et Commerce du Rhône, qui portait l'action en justice, espère que cette décision aura un effet boule de neige sur les autres magasins de l'enseigne, soit en y étant contraint par la justice, soit que la direction soit tentée de mettre un poil de représentativité dans son entreprise.
Et maintenant, Radio Canu à la pointe de l'information importante, de la grosse information, des énormes titres, de ce qui risque de faire changer le monde qui nous suit. Est-ce que vous savez qui est Nicolas Mayer-Rossignol ?
Non.
Est-ce que vous savez qui est Hélène Geoffroy ?
Non.
Non. Ah, le Parti
Socialiste.
Et est-ce
que vous savez qui est Olivier Faure ?
Non.
Eh bien, figurez-vous que ces trois personnes sont les trois personnes qui se disputent la direction d'un groupuscule centriste, une organisation plus ou moins politique qui a longtemps servi de marchepied à des ambitions personnelles de pouvoir et à certains moments qui a contribué à sauver le capitalisme en faisant croire que le capitalisme pouvait être vaguement social. Bref, pour les élections au poste de secrétaire général du PS, sachez que c'est Olivier Faure qui est favori.
Mais du PS ou du PS ?
Du PS, du Parti Socialiste. Rappelons juste que la candidate de ce groupuscule avait fait un score de 1,7% aux dernières présidentielles.
Paris-Dakar. Les petits blancs dans leur grosse voiture ont, une fois n'est pas coutume, écrasé un autre petit blanc, un spectateur italien, dans les dunes du désert en Arabie Saoudite.
Oh bah
une grande tristesse pour la famille, une petite revanche pour l'écologie.
Ah Alors, eh bien, heureusement qu'on continue sur une... Enfin bref, bonne nouvelle. Fin de l'épidémie d'Ebola en Ouganda. Elle aura duré plus de 4 mois et a tué 55 personnes. L'épidémie est déclarée terminée au bout de 42 jours consécutifs, sans nouveau cas, soit deux fois la période d'incubation du virus. Au total, 142 cas ont été confirmés dans le pays. La souche du virus qui circulait ne pouvait être contrée pour le moment par un vaccin.
On va faire comme tout le monde, on va poser un peu de la réforme. Ah non, pardon, c'est fini. Non,
mais alors toi
c'est pas du tout fini les brèves.
Mais si, c'est fini les brèves, on met un petit peu de générique, un petit peu fort, on monte le volume. Après, on baisse. Et après, vas-y.
C'est le moment d'y aller, là.
Vas-y, parle des retraites.
On va parler des retraites, là, de la réforme des retraites. Parce que hier, Elisabeth Borne a fait des annonces. Et il s'avère que dans l'état actuel du texte, attention, il faut suivre, l'âge légal sera porté à 64 ans en raison d'un trimestre supplémentaire de. En raison d'un trimestre supplémentaire par an dès septembre 2023 pour la génération 1961, au lieu de 65 ans, à raison de 4 mois de plus chaque année. Mais le gouvernement a décidé d'accélérer l'application de la réforme Touraine votée sous le mandat de François Hollande, réforme qui prévoyait d'ajouter un trimestre supplémentaire tous les 3 ans pour bénéficier d'une retraite sans décote, avec pour horizon 43 annuités en 2035. Mais finalement, pas du tout. Avec la réforme prévue, les 43 annuités seront atteintes en 2027, 8 ans plus tôt que prévu. Ainsi, cette année-là, l'âge légal de départ sera porté à 63 ans et 3 mois. Concrètement, il aura fallu cotiser 172 trimestres. Si vous avez commencé à cotiser à 21 ans et demi ou plus, vous ne pourrez pas partir sans une réduction du montant de votre pension.
Ben, si vous avez enregistré, vous pourrez vous repasser ça en vitesse normale.
Alors, je pourrais continuer un moment comme ça.
Tu fais hyper bien, en tout cas, le type qui raconte des trucs, on a l'impression qu'il comprend.
Ouais, c'est ça, je pourrais continuer un moment comme ça. Et en plus, c'est pas n'importe quoi, puisque j'ai fait un copier-coller d'un article sérieux.
J'ai pas dit n'importe quoi.
Et j'imagine même que certaines d'entre les gens qui sont à l'écoute chez eux, chez elles, de leur radio, ont peut-être compris ce que je viens de dire, mais sachez que c'est pas du tout mon cas. Ici, dans le studio, il faut dire qu'on n'est pas globalement des foudres de guerre du salariat. On s'est plutôt démerdé dans nos vies pour tenter d'échapper au moins en partie à ce truc-là. On a eu jusqu'à maintenant plus d'exigences de temps que de pognon. Dans la mesure du possible, on a plutôt essayé de bosser pas trop, de choper ici ou là des allocations quand ça a été possible. Celui ici, qui a le plus d'années de salariat derrière lui, a eu ses fiches de paye tellement minées par les grèves que pour avoir ses, je sais pas combien d'annuités de trimestre de bordel, il va pouvoir bosser jusqu'à 97 ans. Ne me regarde pas comme ça, c'est ce qui t'attend.
Oui, puis ça va être encore bien miné, j'ai l'impression.
Du coup, tous ces aspects techniques de la réforme des retraites, on n'est pas forcément les mieux placés pour vous en parler, vu que, comme on ne s'est jamais senti trop concerné, à nos âges et avec nos parcours, les 172 trimestres, si j'ai bien compris, en droit c'était écrit 172 trimestres, c'est sûr qu'on les atteindra pas de notre vivant.
Autant vous dire que nous, ce qu'on surveille, c'est plutôt le taux du minimum vieillesse.
C'est ça, exactement. Ceci dit, j'ai dit qu'on les atteindrait pas de notre vivant. Eh ben, on n'est pas vraiment les seuls. Parce que figurez-vous que, selon un beau graphique qui a été publié il y a quelques jours par Libé, les pauvres, ça meurt quand même finalement assez jeune. Le graphique présente la courbe de mortalité en fonction de l'âge pour les 5% des hommes les plus pauvres et pour les 5% toujours des hommes les plus riches, donc la population masculine. Mais les 5% les plus pauvres, là, c'est les 5% les plus riches. Ben, c'est vrai que les deux courbes, bon, finalement, elles sont un peu les mêmes au départ, hein, jusqu'à 40 ans, en tout cas, c'est les mêmes, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui meurt. Et puis, à partir de 40 ans, ça se différencie un peu, ça se différencie assez nettement à partir de 50 ans, à 62 ans, qui, d'après ce que j'ai compris, est l'âge de la retraite pour le moment. Eh ben, à l'âge de la retraite pour le moment, 95% des riches sont encore vivants. Mais chez les pauvres, il y en a seulement 75%. Donc il y en a déjà un quart qui a déjà cané. Donc toujours ça de moins de retraite à payer. Quand la retraite passera à 64 ans, enfin, je ne sais pas combien d'annuités de trimestre en fonction de la réforme Touraine, de la décote des carrières longues de bordel, là, les pauvres qui atteindront 64 ans pour partir à la retraite, il y en aura plus de 30% qui auront passé l'arme à gauche avant d'arriver à ce moment-là. Les Rupins, non, pas du tout. Les Rupins, il en restera encore pas mal, genre 93%. Alors, mes chiffres ne sont pas complètement exacts parce que je crois que c'était écrit dans la suite de l'article, mais bon, l'article était payant.
Alors, je t'ai filé les codes.
J'ai juste dû me contenter de regarder les courbes et d'essayer d'aligner le curseur de l'ordinateur pour, bon, je dirais à peu près 93%. Chez les femmes, la différence est moins importante, mais pour les plus proches de la retraite, c'est quand même des générations où il y a encore plein de femmes qui n'ont pas travaillé. Alors attention, ou qui ont travaillé moins longtemps. Enfin bon, on s'entend, quand on dit qu'ils n'ont pas travaillé, ça ne veut pas dire qu'elles ont passé leur temps à se tourner les pouces. Ça veut plutôt dire qu'elles ont travaillé bénévolement pour leur bonhomme, sans horaire de début et horaire de fin, et pour leur gosse. Mais dans tous les cas, ça donne beaucoup moins de droits à la retraite. Mais bref, tout ça pour dire que les pauvres, c'est pas eux qui vont coûter cher au niveau retraite. Les rupins, par contre, alors bon, déjà souvent ils kiffent travailler vachement plus longtemps, et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est parce que leur boulot, c'est globalement pas de porter des trucs lourds. Généralement, c'est plutôt des boulots passion, et souvent quand même des boulots de pouvoir. Et les vieux riches, le pouvoir, on sait qu'ils kiffent, c'est quand même un secret pour personne. Ensuite, même en arrêtant de travailler tard, à un âge avancé, c'est de toute façon, la plupart du temps, il leur reste quand même encore du temps pour profiter de leur villa, de leur grosse bagnole, tout ça. Pendant que les pauvres, on s'en fout, de toute façon, eux, ils sont déjà canés. Comme ça, c'est sûr, on va, comme ils disent, arriver à l'équilibre et sauver le système des retraites par répartition. Alors bien sûr, on l'aura compris, si on a un tout petit peu écouté différentes personnes parler ces derniers jours, il y a une autre manière, même sans révolution, de laisser les gens s'arrêter de bosser avant d'être morts, c'est-à-dire sauver le système de retraite par répartition. L'autre manière, c'est de prendre dans la poche des patrons la thune pour payer les retraites. Mais là, c'est le moment où tous les ministres macronistes arrivent en disant « Oh, on veut pas créer plus d'impôts, pas de nouveaux impôts, les impôts, c'est mal les impôts. »
Malgré tous les cadeaux qu'on leur a fait quand même.
C'est ça. Alors bien sûr, quand les macronistes le disent comme ça, ça flatte le français dans le sens du poil. Les impôts, c'est l'État qui nous prend du fric. Nous, on veut pas payer les impôts, on n'aime pas le bureau des finances, tout ça. Finalement, on dira ce qu'on voudra, mais ce gouvernement, au moins, ils veulent pas nous prendre notre fric, c'est quand même toujours déjà ça. En fait, oui, mais c'est quand même pas tout à fait ça, puisque rappelons quand même que en attendant qu'on ait aboli le capitalisme, fait la révolution, installé l'autogestion et surtout aboli le pognon et tout ça, les impôts, c'est quand même la seule manière, avec la quête à la messe, de répartir un peu l'argent, de prendre un peu, même un tout petit peu, dans la poche des riches pour financer deux ou trois trucs qui servent aussi aux pauvres, les hôpitaux, les routes, notre RSA, et les retraites des gens qui ont droit à des retraites. Et c'est bien exactement pour ça que les bandes à Bruno Le Maire ne veulent pas créer de nouveaux impôts, tout ça. Pour que le fric reste à sa place naturelle, qui est donc la poche des riches. Alors tout ça pour dire que les annuités, les décotes, les réformes Touraine, les répartitions, tous ces bordels, pour ma part, c'est vrai que je m'en fous un peu de comprendre tout ça, parce que même sans comprendre les détails techniques de tous ces trucs, ce que je sais, c'est que si on veut pas que les plus riches remportent encore une victoire, nous enfonce encore un peu plus le nez dans le caca. Et même si on n'a vraiment aucune chance de toucher la moindre retraite, jamais, on a quand même intérêt à ce que ça pète sacrément dans les jours et les semaines qui viennent.
Canu Info. Du mercredi.
Et que ça pète, mais alors que ça pète pas trop bruyamment, puisque Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a décidé de fixer un niveau sonore maximal pour les rassemblements et manifestations place de la République. Alors manifester, oui, donc, mais en silence. Les arrêtés fixent le niveau à 81 décibels A. Donc on rentrera pas dans la technique de ce que c'est qu'un décibel A, parce que vous avez compris que le Canu Info n'était pas fait pour rentrer dans la technique, soit des lois, soit des décibels. Mais en tout cas, on sait pas trop à quoi ça correspond, mais ça va s'être arrêté et circonscrit à la place de la République. Mais pour se donner une idée de ce à quoi ça correspond, déjà, ça fait presque un an qu'il fait ça, plusieurs organisations ont déjà été verbalisées et du matériel a déjà été confisqué. Donc, en gros, ça se franchit vite. La LDH a déjà fait des tests en disant, bon, bah, en gros, une circulation un peu dense autour de la place de la République, aux heures de pointe, tout ça, c'est déjà à peu près 81 décibels. Bref, faut gueuler, faut monter le volume pour se faire entendre. Au total, depuis presque un an, donc 13 procès-verbaux ont été dressés avec saisie du matériel. Place de la République, c'est le point de départ hein, pour nous qui ne sommes pas parisiens, de quasi toutes les manifs à Paris. Et comme un bon pays centralisé qu'est la France, tous les dirigeants et bureaucraties syndicales et des partis politiques sont à Paris, ce qui fait qu'à chaque départ de manif intersyndicale, la place se transforme en parc d'attractions politico-syndicales avec à chaque groupe sa sono mal réglée. Et ça écorche les oreilles des bourges qui habitent autour de la place et se plaignent du bruit des gueux. Alors, sur ce, la LDH a déposé un référé suspension. Alors, pourquoi ils ont attendu un an? Eh bien, c'est tellement parce qu'ils préparent le terrain aux manifs interpro contre la réforme des retraites, et on espère bien qu'à Paris, mais pas seulement, le bruit des sonos sera couvert par la colère des manifestantes.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Mais c'est l'heure de la chronique, alors on va quand même mettre un générique.
Attention, vous êtes prêts ?
Bonsoir. Le plus grand acteur français actuel a dernièrement fait plus parler de lui à cause de son interview au Parisien plutôt qu'en raison de son dernier film. Bon, vous savez bien sûr de qui je vais parler.
Non.
Le plus grand acteur français actuel. Bon. Bon, Omar Sy.
Ah oui.
Ah. Si j'ai bien précisé actuel, c'est pour éviter de confondre avec le vieux libidineux qui pisse du vin par tous les trous et qui cultive autant ses domaines viticoles que ses relations avec les dictateurs. C'est un cap, c'est un roc. Que dis-je ? C'est une péninsule. Et non, Gérard, c'est un vieux rafio qui coule depuis 30 ans et pas dans l'eau. Je voulais donc évoquer l'interview d'Omar Sy dans Le Parisien qui a énervé une partie du monde politique. Enfin, qui a énervé l'extrême droite. En passant par les LR et Macron. Enfin bon, pour résumer, qui a énervé l'extrême droite. Parce qu'il disait que, peut-être, en France, on accordait un tout petit peu moins d'importance au conflit armé s'il touchait des Noirs plutôt que des Blancs. C'est vrai que sur une telle déclaration, il y a de quoi s'insurger. Alors là-dessus, pas de sentimentalisme déplacé, je vais juste donner des chiffres. Pendant l'année 2022, la terrible guerre en Ukraine a fait près de 7000 morts, sans compter les blessés. La guerre du Tigré, en Éthiopie, qui serait en train de toucher à sa fin, a fait environ, et sans compter les blessés, 600 000 morts. On ne serait pas étonné que les détracteurs d'Omar Sy en concluent que les humanitaires n'auraient pas dû leur donner des sacs de riz, ça leur aurait évité de les revendre pour s'acheter des kalachnikovs. Mais ok, la situation à l'international est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en France, il y a aussi des problèmes. En l'occurrence, là, c'est la réforme des retraites, c'est le sujet qui occupe tous les médias depuis 2 jours. Alors rien de bien surprenant sur ce que contient la réforme des retraites du gouvernement Macron. Le but affiché, c'est de reculer l'âge de la retraite, justifié par le gouvernement par l'allongement de l'espérance de vie, qui, d'après le gouvernement, va continuer à augmenter. Effectivement, ça paraît évident. Hein. La pollution de l'air, t'inquiète, on va mettre des centrales nucléaires partout. L'augmentation du niveau de la mer, t'inquiète, on va apprendre à nager aux gosses à l'école. Le réchauffement climatique, t'inquiète, on va installer la clim jusque dans ton froc. Le risque d'une bombe atomique envoyée par Poutine, t'inquiète, on en a une aussi, et on pourra lui en renvoyer une dans la gueule. Par contre, c'est vrai, faut pas attraper un panari. Parce que si tu trouves un hôpital qui n'a pas encore fermé, tu risques bien de crever de surinfection dans le mois, sur un brancard dans le couloir, le temps qu'un infirmier puisse s'occuper de toi. Pour ce qui est de la réforme, la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré « Nous voulons convaincre ». Alors là, on demande à voir, hein, sachant qu'elle a utilisé plus de 49.3 que toi t'as fait de sieste en 2022, ça risque d'être de l'inédit. Elle promet aussi de prendre en compte la pénibilité. Alors attention, hein, ça c'est pas pour les ouvrières ou les ouvriers, puisque le port des charges lourdes n'est pas retenu dans les critères de pénibilité. Non, c'est pour la police et les gendarmes, qui ont souvent l'index très douloureux en fin de carrière, à force de l'utiliser sur le clavier pour taper les dépositions, et sur la gâchette du flashball pour estropier les manifestants qui demandent justement qu'on prenne en compte la pénibilité de leur travail. Une autre stratégie au gouvernement pour nous faire avaler la réforme des retraites, c'est de ressortir Édouard Philippe. Qui voulait déjà, en 2021, un âge de départ à la retraite de 67 ans. Aujourd'hui, il fait part de sa position sur la nouvelle réforme et déclare qu'il soutiendra tout ce qui va dans le sens de plus de travail, ça fait déjà peur, pour garantir plus de, pour garantir plus de prospérité.
Ça t'écorche la bouche, on va dire.
Bravo, bel effet de causalité à la sauce MEDEF. Plus de travail pour qui ? Plus de prospérité pour qui ? En général, et pour plus de 90% des salariés, travailler plus, c'est plus de fatigue pour la personne qui bosse et plus de prospérité pour le patron. Même toi, t'as bien dû essayer une fois, non ? Travailler plus, hein ? Il me semble même que t'avais risqué la courbature. Bon, niveau
je
prospérité,
me sens pas du tout visé.
Ça n'a rien changé pour toi. Hein bah, réponds pas, il n'y a qu'à voir comment t'es habillé. Donc, l'argent, tout pour le patronat, et il n'est en aucun cas prévu dans la réforme qu'il participe financièrement. C'est pourquoi tous les syndicats, à part le MEDEF, appellent à faire grève et à manifester le 19 janvier. Et quand je dis tous les syndicats, c'est même la CFDT et la CGC. Alors je vais surtout pas ici essayer de convaincre de faire grève et de manifester. Je vais simplement vous faire part de la réaction d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, quant à la mobilisation, et c'est très rapide, il a tranquillement déclaré « Ça ne me fait pas peur ».
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on part en Turquie où depuis que le parti HDP pour Parti Démocratique, Parti Démocratique de Peuple, des peuples, a privé Erdogan d'une majorité parlementaire en 2015, ajouté à ça les valeurs que défend le parti, le HDP est la cible du gouvernement. Une répression sans interruption s'abat sur le parti et ses militants depuis au moins 2016, à commencer par le co-dirigeant du parti, Selahattin Atin, et voilà, j'ai pas réussi, vous foutez de ma gueule, Demirtas, condamné à 144 ans de prison. Tu veux nous faire un petit portrait de...
Ben, c'est Selahattin Demirtas, c'est un, du coup le co-leader charismatique du HDP, qui a essayé de briser l'embargo sur les villes qui en 2015 avaient déclaré leur autogestion et qui étaient encerclées par l'armée, qui avait essayé de passer avec des civils, qui fait des superbes déclarations et qui s'est même présenté à l'élection présidentielle en prison et qui a écrit deux bouquins et voilà. Et quelqu'un d'extraordinaire.
Et par ailleurs, c'est un parti qui était au départ le parti qui représentait vraiment la volonté d'autonomie des Kurdes en Turquie, mais qui s'est beaucoup élargi dans ses revendications et qui a intégré le féminisme, l'anticapitalisme, l'écologie. Et
qui n'était pas que sur la minorité kurde, sur toutes les minorités, c'est-à-dire arméniens, les alévis, etc.
Qui au départ était vraiment un parti d'une nationalité dans la Turquie et qui s'est généralisé.
Tout pour plaire à Erdogan, quoi. Et donc, là où j'en étais, oui, cette fois-ci, donc, un procureur a réclamé devant la Cour constitutionnelle turque l'interdiction pure et simple du parti pour terrorisme. Certaines mauvaises langues disent que de toute façon, ils peuvent bien l'interdire. Ils ont placé tous les militants et militantes en prison. Le procureur général accuse le HDP d'être lié de façon organique au PKK, qui, rappelons-le, est considéré comme un groupe terroriste par la Turquie, mais aussi par certains de ses alliés, comme la France par exemple. Le parti dispose d'un mois pour se défendre. La Cour constitutionnelle est composée de 15 membres. Une majorité des deux tiers est requise pour valider cette interdiction. Et pour se donner un peu l'ambiance de la Cour, jeudi, elle avait décidé à 8 voix contre 7 de suspendre les aides publiques au HDP, les privant ainsi de 539 millions de livres turcs, soit 26,7 millions d'euros. Tout ça arrivant, on le rappelle, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue au printemps.
Canu Info.
Vous allez voir, j'ai encore fait le coup de commencer à rédiger un article et puis après, c'était tout d'un coup, c'était 19h et j'en étais à la moitié, alors ça va encore faire un changement de ton au milieu.
On va avoir la fin quand même.
Ouais, mais ça sera juste plus.
Vous faites des recherches sur internet, quoi.
non, vous aurez la fin, mais peut-être après le jeu, ça peut être de dire à partir de quand j'ai arrêté de rédiger.
Bref, le hameau de Lützerath près de Cologne doit être rasé pour laisser place à une mine de charbon. La police, alors j'avais écrit s'apprête à évacuer les zadistes, mais c'est ça, c'est que en rentrant dans le studio, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil sur Twitter. La police a commencé à évacuer les zadistes qui occupent les lieux et des deux côtés des barricades, on se prépare à une sacrée bataille. Alors c'est quoi Lützerath ? Bah, déjà il faut quand même bien dire que pour le Canu Info du mercredi, c'est surtout une grosse négligence que je vais essayer de rattraper tout de suite, même si c'est con, c'est un peu tard. Ça fait déjà 2 ans que ce village allemand, là-bas dans le coin de Cologne, par là, est devenu le symbole de la lutte contre le charbon qui est encore massivement utilisé en Allemagne comme source d'énergie. Le charbon, on va pas s'attarder beaucoup là-dessus, c'est quand même une des pires saloperies qui soit en termes de réchauffement climatique. Or, l'Allemagne en a plein, du coup, elle continue à en utiliser plein. Pas mieux que le gouvernement français là-dessus. On va pas non plus renoncer à quoi que ce soit de notre mode de vie, nanana. L'écologie, c'est bon pour les discours, c'est pas bon pour en tirer des conclusions pratiques. En France, on a le nucléaire, en Allemagne, on a le charbon. Dans les deux cas, c'est un truc qui est vraiment ultra trash. Mais ça permet de ne pas se poser sérieusement la question d'économiser vraiment beaucoup d'électricité, même si on sait que ça serait la seule solution pour avoir une planète encore à peu près habitable dans les décennies qui viennent. Bref, comme d'habitude, je me suis laissé entraîner par la morale, je reprends mon récit. Donc il y a ce bled, Lützerath. En 2019, il y avait 1400 habitants, aujourd'hui, officiellement, il y en a zéro. Le dernier, un agriculteur de nom de Eckart Heukamp, est parti à l'automne parce que le village est maintenant et tout entier propriété privée de RWE, un producteur d'énergie, quoi, une grosse entreprise de production d'énergie. Et que le plan, c'est de faire un gros trou à la place du village, une mine de charbon à ciel ouvert. Mais du coup, les écolos, la bande des jeunes écolos radicaux, les bandes à Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion et Ende Gelände se sont mis sur l'affaire. Le village déserté est réhabité et transformé en une grosse ZAD. Mais voilà, la grosse bataille a commencé aujourd'hui. Le tribunal a organisé l'expulsion à partir de hier et le village a été encerclé, alors exactement entouré, mais pas vraiment encerclé pour autant que j'ai compris, c'est-à-dire que c'était encore possible, en tout cas jusqu'à ce matin, de rentrer dans le village, entouré par les flics, et le village est défendu par quelques centaines de zadistes. Alors canon à eau, hélicoptère, police montée, brigade canine, c'est une opération de grande envergure que s'apprête à lancer la police allemande pour évacuer cette ZAD. À l'intérieur, les zadistes sont méga décidés et puis ils ont toutes les différentes techniques de zadistes. Alors sauf que là, c'est quand même globalement des groupes qui sont plutôt des groupes non violents. C'est-à-dire qu'a priori, ils n'ont pas tellement ils ont pas toute la panoplie des zadistes. A priori, ils ont pas inventé des engins de dingue pour jeter des gros projectiles sur les flics. Mais par contre, ils ont toutes les tactiques de s'attacher ici, de se percher dans des cabanes là, de se mettre dans des endroits où ça va être très compliqué de les sortir. En tout cas, de les sortir de manière à peu près, qui respecte à peu près leur intégrité physique. Bon, un petit bras cassé, ça passe, mais si on tue une douzaine de jeunes, c'est quand même mal vu en Allemagne.
Est-ce que c'est humide et qu'ils ont de la boue pour pouvoir l'envoyer sur les visières afin que les flics se tirent dessus entre
eux? ZAD, comme la ZAD originelle. Ouais. Et ben, de toute façon, en cette saison, c'est humide et il y a de la boue, hein, c'est en Allemagne, je te rappelle. Alors voilà, les zadistes espèrent tenir 6 semaines parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Allemagne, il est interdit de couper des arbres entre le 1er mars et le 31 octobre. Du coup, s'ils tiennent 6 semaines, ça laisse carrément du temps pour se refaire derrière. La réalité, c'est que là, j'ai absolument aucune idée de s'ils ont une chance de tenir jusqu'à demain matin ou si réellement c'est réaliste de pouvoir tenir 6 semaines. C'est vrai qu'ils ont quand même l'air méga, méga décidés. C'est vrai aussi que moi, je me rappelle moi-même en 2012, au moment où il y a eu une énorme offensive, l'opération César, qui avait été lancée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Moi-même, je croyais pas que la résistance allait marcher, puisque le gouvernement était décidé en finir une bonne fois pour toutes avec Notre-Dame-des-Landes, et en réalité, il s'était tellement planté à ce moment-là.
C'était tellement nos amis qui avaient gagné.
Ouais, l'opération Astérix, ils avaient lancé.
C'est exactement Césaire. Ça. Exactement. Et la ZAD a tenu encore un bon petit paquet d'années derrière. Alors voilà. Alors là, on n'est pas entièrement sûr de ce que ça va donner. Et du coup, si ça se trouve, si vous n'avez rien à faire dans les jours qui viennent, que vous avez un bon duvet et que vous êtes d'humeur batailleuse, il est peut-être encore temps de mettre le cap sur Lutz-Sorare. C'est pas si loin que ça. Hein, Cologne, c'est pas très loin de la frontière française. Et ben ouais, voilà. C'est tout. Comme j'ai pas de conclusion.
Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Canu Info du mercredi dans le Camion Info.
Et le camion info semble en panne hein, en Grèce, hein, décidément. Mais on va parler. Enfin, le camion info va parler.
Que le camion est en panne, mais que, le, que oui. La reporter.
Non, oui, tout à fait.
Oui,
tout
les
à
infos
fait.
Sont pas en panne. Hein, ça marche à toute allure.
Et on va parler. Enfin, ça va parler de la situation à Lesbos, de son nouveau camp pour migrants et du procès des solidaires.
Moi, je suis une personne solidaire qui a passé 2 mois à Lesbos. Pas beaucoup, mais peut-être assez pour raconter un tout petit peu comment ça se passe maintenant. Enfin, j'étais pas du tout là pendant Moria et tout ça, mais comme tout le monde sait, il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'éclats entre des fascistes et des migrants et la police, et Moria a brûlé. Mais à Moria, il y en avait 15 ou 20 000 migrants. Et maintenant, à Karatepe, ça s'est calmé beaucoup plus, parce que c'est juste 2-3 000 personnes. Donc, Lesbos est devenu beaucoup plus calme. Aussi, du mouvement solidaire, beaucoup de gens ont quitté l'île. Et maintenant, il y a un autre change qui vient, c'est le nouveau camp, qui s'appelle Vastria. Et toutes les informations que j'ai, c'est juste spéculatif, parce que c'est très difficile d'avoir des informations, évidemment, parce qu'ils ne nous racontent pas. Même les gens qui vont être transférés là, ils ne savent pas. Mais la dernière information qu'on a sur la date, ça serait fin de février. Mais maintenant, il y a quelques jours, j'ai entendu que...
L'ouverture, tu veux dire.
L'ouverture, oui. Fin février 2023, mais maintenant j'ai entendu que ça peut être encore plus tard parce qu'ils doivent construire une... Il n'y a même pas encore une rue qui va vers là. Le problème, c'est que ce camp, il est au milieu du rien. Il est au milieu d'une forêt nationale protégée, une forêt des pins. Cette espèce qui brûle très vite, qui est super dangereux. Et le truc, c'est que ce camp est fait pour... quelques 1000 personnes, je sais pas, beaucoup, peut-être 5. Mm-hmm. Donc c'est ça le problème, il n'y a pas d'infrastructure, ni pour un plan d'évacuation s'il y a un feu ou un problème, ni pour les gens, pour avoir un bus public ou quelque chose pour aller en ville. Ou... Et l'autre problème, c'est exactement ça. C'est pas encore sûr combien de temps par jour ou combien d'heures par jour les gens sont... ont la possibilité de quitter le camp, parce que ce camp, ça s'appelle, le système s'appelle Closed Control Access Center. Ça veut dire c'est fermé, donc c'est comme une prison. Donc c'est semi-automatisé, donc c'est fait par ordinateur, pas par personne, par machine. Donc l'entrée, c'est genre cette porte qui juste ouvre avec ta carte de chip, si toutes tes informations sur la carte sont bien, tu peux entrer. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne peux juste pas rentrer. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Et dans l'autre camp, comme notre ami a déjà dit, il y avait beaucoup de possibilités de s'organiser, de trouver une solution si tu n'as pas accès au camp. Par exemple, si tu es positif, l'asile est positif. Tu dois quitter le camp. Mm-hmm. Tu n'as plus de droits sur le camp, mm-hmm. et c'est pour ça qu'ils te jettent dehors. Mais dans l'autre camp, c'était encore possible de prendre ton temps pour t'organiser et de encore rester longtemps. Et dans le camp, un peu illégal, mais ça, ça va pas être possible. Tu vas être dehors et sans rien, sans travail, sans argent, sans rien. Ça, c'est un grand problème. L'autre problème, c'est la surveillance totale. Il va avoir des caméras, des drones, des détecteurs de métal, je sais pas. Donc, comme notre ami a dit, tu peux pas entrer avec n'importe quoi, avec des nourritures ou... pour faire ta vie un peu plus agréable là-dedans. Et à mon avis, c'est pas autre chose qu'une prison, c'est ça. Et ça, c'est très grave. Et aussi pour les NGO, tous les gens solidaires, ça va être très, très, très difficile de trouver une possibilité d'aider. Parce que la sécurité va être encore plus grande qu'autour du camp. Il va y avoir des security qui vont regarder. Donc on ne sait même pas si ça va être possible de venir en voiture et de prendre avec des gens en ville, de faire ça, on ne sait pas, de faire quel que ce soit de travail de solidarité. Le truc que je peux dire, c'est juste que ce nouveau camp est un exemple, c'est genre un pilote project. C'est un projet nouveau pour essayer, et si ça marche bien sur Lesbos, ils vont le mettre autour de l'Europe, partout, c'est comme ça. Et Samos, c'est aussi un endroit avec déjà un camp comme ça, il existe déjà, exactement le même. Ils vont en avoir 5 près de Turquie. Donc c'est pour ça qu'on sait déjà des informations comme ça. Et ce que je voulais aussi dire, que personne ne veut ce camp, ce nouveau camp. C'est même pas les fascistes, parce qu'ils veulent pas les migrants sur l'île, mais c'est eux qui ont fait les premiers protestes. Évidemment, ils étaient contre la construction, ils ont même brûlé des machines. Au début, c'était vraiment des protestes, mais aussi les migrants même aussi veulent pas, ils ont très peur de ça, et aussi les gens qui aident solidairement, ils ont aussi très peur de ça. Donc tout le monde est un peu peur. Comment ça va être aussi les transports du camp à l'autre, les transferts, parce que ça va être super compliqué. Ils vont avoir beaucoup de police de Athènes qui vient là. Ils vont faire ça en pleine nuit, je sais pas. On sait pas encore si ça va escaler ou s'il va avoir des protestes, on sait pas encore. Donc tout le monde est un peu. Ça va être un peu tense en février. Et aussi beaucoup plus de gens vont être jetés dehors du camp. Ça, c'est aussi un problème. Beaucoup plus de gens vont être en ville sans rien. De trouver des appartements pour des gens, c'est pas facile, parce que, comme on a déjà dit, les locaux sur l'île sont aussi pas super gentils avec les migrants. Pas toujours. Il y a beaucoup de fascisme là, et c'est pas facile de trouver un contrat d'appartement légal. Donc, toutes ces choses, c'est des problèmes. La police est partout. La police est partout sur les rues, mais aussi sur l'eau. Tu les vois dans les voitures, dans les bateaux, et Frontex, tout ça. Et tu as l'impression que tu peux rien faire, parce que tu sais que c'est super surveillé. Ils ont même des caméras de satellite qui voient tout de haut. Donc, il y avait des gens qui étaient très actifs en essayant de trouver des gens qui sont arrivés à l'île pour les aider d'arriver. Mais c'est devenu impossible, ou presque impossible, je ne sais pas. Mais il y a encore beaucoup plus que la criminalisation, c'est aussi la violence qu'ils ont envers les gens qui arrivent. Les pushbacks, c'est devenu normal, c'est quotidien, les pushbacks. Oui, c'est dans la mer, mais c'est aussi sur l'île. Et ça, c'est devenu très grave. Il y a des gens qui arrivent sur l'île, n'importe où, je sais pas, au nord, en disant dans la nature, n'importe où. Ils arrivent, ils essayent de se cacher dans les forêts pour arriver dans le camp. Parce qu'une fois que tu es dans le camp, ça va, tu ne peux pas être pushback, pas être déporté. Mais Frontex et les Coast Guard, Hellenic Coast Guard,
les gardes-côtes
de Grèce, Il roule sur l'île avec des vannes, comme dans un film, sans des plaques. Il sort masqué. Il kidnappe les gens et il les met dans un endroit de quarantaine. Et font beaucoup de violence, prend tous leurs téléphones et tout ça. Ils les battent et tout ça. Ça, c'est très grave. Et il les rend sur la mer, sur un bateau. Il les laisse aller rentrer en Turc. Et là, ils sont parfois sauvés par la police turque. Avant 2020, c'était des exceptions. Hier, il y avait un grand cas, un tribunal, contre 24 personnes internationales qui sont accusées d'être passeurs des humains et aussi blanchiment d'argent, aussi d'espionnage. Et ces gens ont été actifs sur l'île Lesbos pendant les années, je crois, 2016 jusqu'à 2020. Mais en 2018, il y avait ces 24 personnes qui ont été arrêtées pour aider des migrants à arriver à l'île. Et le truc, c'est que ces gens ont fait un travail très important parce qu'ils ont, regardé aux côtes de cette île pour voir s'il y a des gens qui arrivent et les aider à arriver, et parce que c'est très dangereux de croiser de croiser la mer entre Turquie et Lesbos. Il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas, et donc quand ils ont vu des gens, ils ont les aidés d'arriver à la plage, ou directement après ils ont aidé avec de l'eau et des choses. Et voilà, ils ont fait ce travail qui était, je crois, très dangereux aussi, très aventureux, parce que parfois tu étais sur l'eau. Et par exemple, il y a un exemple, une histoire de deux qui sont accusées, deux sœurs de Syrie, et elles savent nager très bien, et elles sont venues en petit bateau de Turquie avec, je crois, 20 personnes, et le bateau a commencé à couler. Donc ils sont sautés dans l'eau, ils ont tiré, voilà, nageant. Ils ont fait ça, ils ont sauvé la vie de ces gens, et du coup ils sont accusés pour être passeurs. Et cette loi, je ne sais pas si elle a existé avant, mais elle est devenue depuis quelques années, que c'est devenu beaucoup plus grave, la répression, que du coup il accuse des gens pour ça. Et voilà. Oui, donc le tribunal a été hier, mais il a été juste quelques heures, et il a été déplacé. Non,
reporté ?
Il va être reporté à vendredi, le 13, parce que c'est 24 personnes, et les avocats ont eu beaucoup d'objectifs, beaucoup, beaucoup, et c'était tellement que le tribunal a décidé de reporter. Et, mais la possibilité d'aller en prison pour ça, c'est 20 à 24 ans. Donc c'est un grand cas très connu maintenant, parce que c'est des humanitariens et ils ont un grand support. Et oui, on espère qu'on gagne ça à cause de toute cette attention de l'Europe. Parce que ouais, ça peut pas être possible que des gens vont en prison pour sauver des vies.
Et l'association Roya Citoyenne a déclaré lundi la fermeture des frontières a encore tué à Menton. Ce jour-là, un migrant d'une trentaine d'années est mort électrocuté sur le toit d'un train. L'association a déclaré, je la cite, sur le toit d'un train, un homme qui cherchait seulement une vie meilleure a été atrocement électrocuté et porte ainsi à plus de 50 le décès à cette frontière meurtrière. Le site Info Migrant rappelle qu'en septembre 2021, à Ventimille, un jeune originaire du Bangladesh était mort électrocuté. En novembre de la même année, un Ivoirien de 31 ans avait été gravement brûlé sur le toit d'un train à la même gare en cherchant à échapper à un contrôle de police. Et en février 2022, on a retrouvé le corps sans vie d'un jeune homme qui se cachait dans le creux d'un pantographe. Et c'est sur cette note positive que nous finissons le Canu Info. En musique cette fois-ci.
Et oui, on n'a pas passé le morceau de musique au milieu, mais on papotant un peu entre nous, on s'est dit que ça serait adapté à toutes ces histoires de retraite et tout ça. Du coup, après le morceau de musique, il faudra quand même que vous patientiez jusqu'à 20h pour avoir l'émission de l'UCL, l'émission Idées Noires.
Peut-être que et vous aurez la chance d'avoir un petit morceau des bandes continues, genre oui. Un morceau genre Au clair de la lune fait avec la musique de la Game Boy.
Il y a des trucs bien sur les bandes continues.
Oui, des fois, oui.
Il bah, faut venir, okay. Oh, bref. Eh bien, voilà. À la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés.
Bon, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios locaux. Si ça pète, les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, c'est que de la racaille. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, pour les nettoyer au karcher. À cause de qui y a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé. Les gens qui bossent. Qui sait qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais. Les gens qui bossent. Qui sait qu'il y en a marre. Des allocs aux immigrés. Les gens qui bossent. Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui. Les gens qui bossent. Oh, 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 oh. Ah bah les gens qui bossent. Oh, oh, oh. Ils sont égoïstes. Oh, oh, oh. Ah bah les gens qui bossent. Oh, oh, oh. Heureusement y'en a de moins en moins. Ah. Et les dreadlocks. Faut pas dormir. Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux y'a la guerre en Irak. Oh, 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 ah bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi la ramener.
Bon, combien là? Oh putain les mecs, eh, on a fait 2 minutes 4 et le format c'est 2.30, 2.40. Eh, faut qu'on y retourne, non? Ok? Allez, 3, 4. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez on flash. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis. C'est des Américains. Oh. Stop! Eh hey, putain, eh hey, 2 minutes 52 les mecs. On...
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.